السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على ذنب الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. Après donc ces mots d'usage que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait donc l'habitude de prononcer à chaque fois qu'il prenait la parole devant ses compagnons, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il vient d'être annoncé, nous allons nous charger donc de présenter ce thème. Alors, en ce qui concerne donc le sujet, pour commencer, nous allons d'abord dire que l'islam est la religion que Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Créateur, le Tout-Puissant, a choisi donc pour ses créatures. Une religion par laquelle il fait donc sortir ses créatures des ténèbres vers donc la lumière de l'islam, la lumière de la connaissance, la lumière de la foi. Et religion par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur offre à la fois le succès dans cette vie présente et la félicité dans l'au-delà. Donc l'islam, s'il faut revenir dans son sens étymologique, l'islam signifie soumission et obéissance totale à la volonté de Dieu. Mais lorsque nous regardons, nous jetons un regard dans le Coran et dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous remarquerons que Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de l'islam en ce qui concerne des prophètes antérieurs au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a parlé de la présence de l'islam au niveau de ces prophètes-là. Ce qui va donc nous amener à dire que l'islam a finalement deux sens. Donc il y a le sens large et le sens strict. En ce qui concerne le sens large, l'islam dans son sens large signifie donc l'adoration, adoration d'Allah seul, donc Allah, Dieu le Créateur, l'adorer seul sans lui associer avec quoi que ce soit ou qui que ce soit parmi ses créatures. Donc vouer un culte sincère à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette définition découle de plusieurs versets quand nous regardons dans le Coran. Par exemple, au chapitre 16 du Coran, Sourate An-Nahl, dans son verset 36, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibu taghut." Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que certes, nous avons envoyé à chaque communauté un messager, à chaque communauté un messager pour leur dire: adorez Allah seul et évitez le taghout. Évitez donc le Tawhid. Le Tawhid ici, c'est le diable. C'est le shaitan, c'est le démon. C'est tout ce que l'on adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc par là, nous comprenons que tous les prophètes étaient donc venus pour prêcher l'islam, qui signifie adorer Allah seul, le Dieu créateur, sans lui associer. Alors, si tous les prophètes ont enseigné l'islam, ont prêché l'islam, donc nous disons que l'islam est la religion de Dieu, religion prêchée par tous les prophètes, du premier jusqu'au dernier. Car tous ces prophètes ont eu un message commun. Ils ont eu un message commun, à savoir appeler leur peuple respectif à l'adoration d'un seul Dieu créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi nous disons que cette définition, ce sens de l'islam est un sens large. Maintenant, quand nous arrivons au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, ici l'islam va prendre un sens strict. Un sens strict, c'est-à-dire ici, il va donc être l'ensemble des enseignements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lesquels enseignements ont donc donné une forme parfaite et définitive de l'islam. Parfaite et définitive de l'islam. En d'autres termes, nous comprenons que l'islam était comme un édifice que Allah subhanahu wa ta'ala bâtissait. Donc pour bâtir cet édifice, il a envoyé plusieurs maçons ici sur terre. Les maçons ici qui sont donc les prophètes. Chaque prophète donc a mis sa brique, a posé sa brique à l'édifice. Jusqu'à, nous sommes arrivés à l'époque du prophète Isa alayhi salatu wa salam, qu'on appelle communément dans la Bible Jésus-Christ. Donc avec lui, la maison, voilà, est debout, sauf qu'il y a un vide, le vide d'une brique. Quand les gens se sont mis à contempler, à regarder, à apprécier la maison, ils ont dit, si on avait mis la brique à cet endroit, la maison serait impeccable. Alors le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il vient pour dire, je suis cette brique. C'est moi la brique. Donc avec le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé l'islam, a donné une forme finale, définitive et parfaite. Voilà pourquoi c'est cette religion-là que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est venu prêcher. C'est pas qu'il est le fondateur, vous venez déjà de le comprendre. C'est cette forme-là définitive qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte. Voilà pourquoi il dit wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Donc quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ne sera point agréé. Donc les adorations qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte depuis l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps, ce sont les adorations qui seront donc accomplies dans l'islam que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. Et cet islam finalement est bâti sur 5 piliers, là nous rappelons, vous voyez, il y a donc l'attestation de foi, attester qu'il n'y a d'autre divinité digne d'adoration à part Allah et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est véritablement son serviteur et envoyé, hein, un messager envoyé à l'humanité tout entière. Après donc cette attestation de foi, il y a donc l'accomplissement de la salat, qui est donc la prière. Vous avez donc l'aumône légale qu'il faut acquitter. Nous avons donc le carême et nous avons enfin le pèlerinage. Ce sont là donc les poteaux qui sous-tendent donc l'islam qui est venu prêchait donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors voilà donc cet islam que nous devons appliquer. Cependant, l'islam, comme le thème l'indique, l'islam, depuis donc l'existence du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis donc de son vivant, l'islam a connu beaucoup de problèmes, beaucoup d'attaques. L'islam a été combattu depuis à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui, cet islam-là est attaqué de tous bords. Et donc, dans ce monde que nous vivons actuellement, et surtout depuis les événements du 11 septembre 2001, alors l'islam et d'autres événements encore qui se passent dans les pays islamiques ou encore à majorité musulmane, alors tous ces événements-là ont milité à ce que l'islam soit de plus en plus attaqué. Donc nous vivons une période où l'islam est attaqué de façon tous azimuts. Et il y a donc ce qu'on appelle une islamophobie accrue à l'échelle mondiale. Et il y a aussi cet amalgame qui se fait entre l'islam et la violence. Finalement, on n'arrive plus à distinguer l'islam dans ses valeurs nobles prêchées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donc la violence qui s'installe dans les pays musulmans, dans les pays à majorité musulmane. Alors finalement, dans ce contexte-là d'islamophobie, de haine, d'indifférence envers donc l'islam, comment est-ce que le musulman doit-il assumer son identité? Comment est-ce que il pourra assumer son identité? Et par rapport à cela, nous devons d'abord remarquer aussi que c'est vrai que l'islam est attaqué de l'extérieur. L'islam est attaqué de l'extérieur par les forces ennemies, ennemies de Dieu, ennemies de l'islam, ennemies des musulmans, puisque cette vérité est même contenue dans le Coran, puisque Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yuriduna liyutfi'u nur Allah, wallahu mutimmu nurihi, wallahu kariha al-kafirun » Ils veulent éteindre la lumière d'Allah par leurs propos mensongers, par leurs paroles mensongères à travers donc l'islam, contre l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala parachevera donc sa lumière et fera en sorte que cette religion prendra donc le dessus sur tout. Donc cela signifie que l'islam, depuis longtemps, était déjà attaqué. Mais personne ne pourra terrasser l'islam, puisque l'islam n'est pas un régime politique. L'islam n'est pas un produit de l'imagination humaine, de l'invention humaine. Mais l'islam, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui-même qui va préserver cette religion, qui la mettra donc au-dessus de tout. Aussi, ce que vit l'islam aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui, ce n'est pas toujours de l'extérieur, mais c'est aussi à l'intérieur même de l'islam. Ce sont les musulmans eux-mêmes aussi qui sont donc la cause de ce que les musulmans, l'islam vit aujourd'hui. Et cela donc à travers des comportements déviants et à travers la mauvaise compréhension et application des textes, vous voyez, coranico-prophétiques. Que ce soit le Coran ou bien la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un problème de la mauvaise compréhension et la mauvaise application des textes. Alors ce qui fait que si on a mal compris les textes ou bien on les a mal appliqués, alors La conséquence, c'est quoi? C'est que ça déforme l'image même originelle même de l'islam. L'image noble de l'islam. Ce qui pose énormément des problèmes au niveau des musulmans. Parce que ça va susciter une certaine frustration et ça va susciter des complexes. Un musulman sera complexé de pratiquer sa religion, d'extérioriser sa foi, d'exprimer sa foi, puisque dans tel pays, dans l'autre pays, je ne sais pas dans quel coin, voilà ce qu'on dit de l'islam, ce que font les musulmans. Finalement, ça pose problème. Et si bien que il y a des musulmans qui sont gênés, qui sont complexés, et d'exprimer leur foi, que ce soit au milieu du travail, dans le monde du travail. Voyez, le musulman se gêne hein, d'extérioriser justement sa foi, d'exprimer sa foi, que ce soit au niveau scolaire, dans les écoles, au niveau universitaire, en tout cas dans le milieu des affaires, dans n'importe quel endroit que ce soit. Le musulman aujourd'hui se sent donc harcelé, matraqué, et il n'a pas le courage justement d'exprimer sa foi, de pratiquer sa religion, parce que s'il le fait, tout de suite il est attaqué. Tout de suite il est attaqué. Si bien que certains, même pour chercher, si nous prenons l'exemple du marché du travail, celui qui va pour chercher un emploi, voyez, vous savez, quand on cherche un emploi, ben c'est un contrat. Le patron est là pour défendre ses intérêts. Et toi, l'employé également, tu as tes droits aussi, tu veux te défendre. Bon, donc on négocie. Mais regardez en ce moment-là, vu tout ce qui se passe dans le monde, comment est-ce que l'islam est attaqué à tout bout du champ? Alors, celui-là n'a pas le courage, par exemple, de dire, bon, écoutez, quand on négocie le contrat, je suis musulman, voilà, il y a telle chose, telle autre chose, ça ne cadre pas. Il n'a plus ce courage-là. Parce que l'islam est mal vu maintenant. Cela pourquoi? À cause justement des déviations qui ont déformé donc l'image noble de l'islam, les valeurs même nobles de l'islam prêchées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment le musulman se retrouve dans cette situation, dans cet état de choses. Alors finalement, qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va continuer justement à gérer cette ce complexe-là? Est-ce qu'on va continuer à vivre en catimini? Est-ce qu'on va jouer à l'hypocrisie? Ou bien qu'est-ce qu'on doit faire? Voyez la situation. La situation est humiliante. Parce que ce musulman-là se dit, si je pratique, c'est humiliant, c'est dégradant, puisqu'on repousse le musulman. Moi, j'ai toujours réfléchi, quand je regarde la situation, je réfléchis sur un hadith du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est un hadith qui parle des choses, mais pas de façon exhaustive. C'est comme un modèle que le prophète nous a donné, c'est comme un échantillon. Donc à chaque fois que le musulman, le monde islamique vivra des problèmes, des difficultés, alors comment faire pour redorer le blason? Comment faire pour relever la tête? Comment faire pour que Allah subhanahu wa ta'ala rendre notre dignité? Comment faire? Quand je regarde cet hadith, dans cet hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit: « Iza tabayatum bil'ina وأخذتم أذناب الأبقار ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. Voyez, dans cet hadith, Rasulullah SAW nous dit, lorsque vous pratiquerez la haine, c'est une sorte de vente, mais entachée de l'usure, qui cache l'usure finalement. Les gens savent bien que c'est de l'usure. L'usure est interdite. Ouais, les intérêts usuraires sont interdits dans l'islam. Ils savent bien que cette vente procure les intérêts usuraires. Mais pour les besoins, alors ils vont autoriser cette vente-là. Malgré que c'est interdit, ils vont autoriser la vente. Par des moyens détournés, ils autorisent la vente. Donc le prophète il dit, lorsque vous ferez cela, lorsque vous allez vous préoccuper seulement de l'élevage, vous allez vous préoccuper de l'agriculture, donc c'est devenu votre préoccupation d'en chercher les biens de ce bas monde, devient donc votre préoccupation, et vous abandonnez le djihad. Vous abandonnez le djihad. Voyez, la lutte, l'effort dans le sentier d'Allah, vous abandonnez cela, qu'est-ce qui va arriver? Rasulullah Salam va nous le dire. Ce qui est important ici, c'est d'abord de souligner que Rasulullah Salam, il nous fait ce qu'on appelle un diagnostic. Il nous décrit la maladie, ce que connaît la Oumma. La Oumma ici commence à autoriser ce qui est illicite et ce qui est illicite. Ce qui est interdit, la Oumma commence à autoriser. La Oumma s'est donnée maintenant au chaud de ce bas monde, s'est agrippée au chaud de ce bas monde et a oublié ses devoirs, a oublié ses obligations. Lorsque nous arrivons à ce niveau-là, c'est-à-dire on s'intéresse au monde, voyez, c'est devenu notre préoccupation, notre obsession, au point d'oublier nos devoirs, nos obligations, et dans ces obligations, il a donné un exemple. Ce n'est pas exhaustif. Cet exemple-là, il a parlé du djihad. Parmi les obligations, c'est-à-dire la lutte dans le sentier d'Allah. Combattre dans la voie d'Allah. Vous abandonnez cela au détriment des choses de ce bas monde. Ça peut être, vous abandonnez quoi? Parmi nos obligations, nos devoirs, la salat. Parce qu'il y a des musulmans qui n'arrivent plus à prier à cause de tout ce que l'islam vit. Hein? Comme islamophobie, comme attaque des musulmans. Pendant les voyages, n'arrivent même pas à prier. Il est l'heure de la prière, mais il ne peut pas accomplir sa prière parce qu'il se dit, si je prie ici, tous les regards seront braqués sur moi. Les gens sauront que je suis musulman. Et ils vont dire, ça c'est un terroriste encore là, et dans l'avion, les gens auront... Combien de musulmans prient même dans l'avion? Alors qu'il est l'heure, ils ne peuvent pas. Et surtout ceux qui portent la barbe, ceux qui sont barbus, c'est des problèmes. C'est des problèmes. Donc on abandonne ces obligations, on peut continuer à citer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans le même hadith, le prophète dit, « Sallatallahu alaykum zulla. » Allah jettera sur vous de l'humiliation. Vous serez humiliés. Vous perdrez votre dignité, votre personnalité. Vous serez dénigrés. Vous connaîtrez l'avilissement, vous serez avili. Parce qu'on a laissé les devoirs, les obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a imposées. C'est ce que le musulman vit actuellement. La plupart des musulmans n'arrivent plus à pratiquer leur religion. Et donc c'est cet avilissement-là qui suit.
Mais non.
Que faire maintenant, en ce moment-là? Oui? Pour recouvrer notre honneur, notre dignité. Rasulallah salam, le prophète dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'ôtera pas cette humiliation de vous jusqu'à ce que, oui, vous allez donc retourner à votre religion. Jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Revenir à la religion. Revenir à la religion, c'est ça la solution. Revenir à la religion. Et c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ya ayyuha allazina amanu in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Oh vous qui avez cru, si vous secourez Allah, ouais, si vous faites triompher la cause d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala vous accordera la victoire et raffirmera vos pas. C'est-à-dire, il va vous donner de l'endurance, de la patience quant à la pratique de votre religion. Il va vous accorder la tranquillité, la sérénité, la paix intérieure pour pratiquer votre religion. Donc la solution ici, c'est vraiment de pratiquer la religion, de revenir à la pratique religieuse. Revenir au Coran et à la Sunna. Revenir à la religion, c'est quoi? Revenir à notre livre qui est Al-Quran Al-Karim et revenir donc à la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mettre le Coran en pratique, mettre la Sunna en pratique. En d'autres termes, mettre la législation islamique en pratique qu'on appelle la charia. La charia, je sais que ça, vous voyez, hein, quand on prononce le mot charia là, ça provoque un peu la chair de poule. Il y a des gens qui sont gênés d'écouter ce mot charia. Ils sont allergiques en ce moment-là. Et le musulman même honte même. Et d'autres même proposent là, une nouvelle lecture, écoutez, hein, on vit le modernisme. C'est le modernisme, vous voyez, bon, la charia, c'est un peu le temps des chameaux, l'époque des chameaux, bon, vous voyez, il y a des choses qui ne cadrent pas avec notre époque, vous voyez, il faut relire, donner une nouvelle lecture du Coran et de la Sunna. Est-ce que vous voyez ça? Quelle lecture on va donner? Quelle nouvelle lecture? Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout prévu dans le Coran et dans la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La charia, c'est la législation divine d'Allah. Quand les gens entendent parler de la charia, ils voient juste le côté pénal. Ils voient le côté pénal. C'est pas seulement ça. C'est pas ça seulement. La charia englobe tout, régit toute la vie de l'être humain, hein? Du point de vue vertical et du point de vue horizontal. Vous voyez la charia, hein? Ça régit nos relations, notre relation entre nous et Allah, le Créateur, et régit nos relations entre nous humains, entre individus et ainsi institutions. Tout ça, la charia vient pour ça. Donc pour nous donner le bonheur ici-bas, ouais, et nous donner aussi la félicité dans l'au-delà. Et vous comprenez? Donc revenir à la religion d'Allah consiste donc à pratiquer le Coran et la Sunna d'après la compréhension de ceux qui nous ont précédés. À savoir les compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Idem, ce qui fait que, chers frères en l'islam, lorsque nous regardons cela, cela nous pousse à dire que, chers frères, nous devons être fiers, il faut être fiers d'appartenir donc à cette communauté du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il faut être fiers. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une meilleure communauté. C'est la meilleure communauté. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer que nous sommes meilleurs, il nous dit dans le Saint-Coran, au chapitre 2, verset 143, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Et c'est comme ça aussi que nous avons fait de vous une communauté juste. أُمَّةً وَسَطًا. Communauté juste. Nous allons voir aussi وَسَطًا, c'est pas seulement juste. Communauté وَسَطًا signifie aussi خِيَار, c'est-à-dire meilleur, meilleure communauté. لِتَكُونُ شُهَدَاءَ لِلنَّاسِ, pour être témoin aux gens. On est meilleure communauté. Et Allah a fait de nous des témoins. Quel témoin? Nous allons regarder. Et le mot wasata ne signifie pas seulement meilleur, signifie aussi le milieu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous une communauté du juste milieu. Nous sommes une communauté du juste milieu. Et un exégète dit, en donnant l'explication de ce verset, il dit « Umata wasata », il dit « Comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la Kaaba le centre de la terre, le milieu de la terre, c'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de vous une communauté de juste milieu. » C'est-à-dire, il vous a placé tout juste après les prophètes, tout juste après les prophètes. Donc, après les prophètes, vient donc la communauté du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a mis au-dessus des communautés. C'est ça la communauté du juste milieu. Communauté du juste milieu. C'est-à-dire, les prophètes au-dessus, nous venons après, et quand nous venons après, le reste des communautés sous nous. Donc nous sommes au-dessus du reste des communautés et nous sommes sous les prophètes. Et vous comprenez ça? Il faut être fier, Yahouan, et nos sœurs. Il faut être fier d'appartenir à cette communauté. Parce qu'en ce moment-là, vous ne serez plus complexés. Vous ne serez pas complexés parce que Allah vous a dit que vous êtes la meilleure communauté. Et cela cadre avec un autre verset du Coran, dans Surat Al-Imran. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait sortir pour l'humanité. Tamuruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous recommandez le convenable, vous interdisez le blâmable. Et vous croyez en Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez comment nous sommes meilleurs. Et il dit dans ce même verset que il nous a placé communauté du juste milieu afin que nous soyons témoins. Témoins aux gens. Dans la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une communauté qui va témoigner pour les prophètes qui sont passés lorsqu'ils seront interrogés devant Allah subhanahu wa ta'ala au sujet de leur mission. Ont-ils transmis? Est-ce qu'ils ont transmis le message d'Allah à leur communauté respective? Ces prophètes devant Allah répondront affirmativement. Ils vont dire si nous avons transmis. Mais finalement, quand on appelle leur peuple respectif, ils vont dire non. Ils vont nier. Ils n'ont pas transmis. Alors finalement, quel est votre témoin? Qui va témoigner pour vous? Voilà votre peuple qui refuse, qui nie que vous n'avez pas transmis. Finalement, c'est la communauté de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui va témoigner pour ces prophètes-là qu'ils ont transmis. Parce que oui, pour Allah, nous, dans le Coran, nous avons vu, tu as parlé de Noé, tu as parlé d'Abraham, tu as parlé, on témoigne. Vous voyez? Nous sommes la meilleure communauté. Et nous allons aussi témoigner, on sera des témoins à charge. Vous voyez?
où on sera les témoins à charge. Nous allons témoigner contre les peuples de ces prophètes-là. Vous voyez ? En ce qui concerne leur mécréance et leur perversité. Comment ils ont refusé de croire au message des prophètes. Comment ils ont été pervers. Nous allons témoigner contre eux. Alors si nous sommes les témoins, on va témoigner. Ce qui signifie que nous n'allons pas nous salir dans ces perversités, dans ces désobéissances de toutes sortes, puisque nous sommes un peuple témoin, c'est-à-dire juste. Pour qu'on prenne votre témoignage, il faut être juste, il faut être honnête, il faut avoir un certain nombre de qualités, vous comprenez ça? Donc nous sommes déjà, nous avons ces qualités-là. Donc ce qui signifie que nous n'allons pas nous salir. Donc quand les autres font ce qu'ils font, puisque nous devons être témoins, donc nous devons être à l'écart. On doit être à l'écart. On ne doit pas nous salir. Alors, ce qui fait que nous allons chuter dans le comportement. Donc, nous ne devons pas faire comme les autres font. À travers notre comportement, ils vont comprendre que non, ce qui se passe, ce n'est pas ça. Voilà le vrai message de l'islam. Et l'islam nous recommande même, devant notre ennemi, celui qui est ton ennemi, l'islam nous recommande d'être juste. Envers lui, de pratiquer l'équité, être équitable vis-à-vis de ton ennemi, alors qu'il est ton ennemi. Tu devais être animé d'esprit de vengeance, de ceci, du non. L'islam te dit, Al-Qur'an nous dit, Wa la yajirimannakum shana'anu qawmin an la alla ta'dilu, idilu wa aqrab li taqwa. Ouais? Que la haine que vous avez, pour un peuple, que cette haine ne vous pousse pas, ne vous empêche pas d'être équitable envers eux. Ouais? Pratiquez l'équité, soyez équitable envers eux, cela est proche de la crainte. Cela est proche de la crainte. Regardez l'islam. Donc, comment nous allons assumer notre identité? C'est à travers. Donc, dans ce monde-là, déjà, islamophobe contre l'islam, la haine contre les musulmans, les attaques contre les musulmans, nous devons montrer le bel exemple. Voyez, pour décourager l'ennemi. Il pense que non, ce n'est pas ça. L'islam que vous pensez violent, l'islam n'est pas violent. L'islam ne prêche pas la violence. L'islam ne prêche pas la vengeance. Non. Le bon comportement. Vous voyez? Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le bon comportement. Celui qui a le bon caractère. Mais comment doit-on avoir le bon comportement? Comment doit-on avoir un bon caractère? Alors tout ceci doit passer par l'apprentissage de la religion. Cherchez l'accord. La connaissance. Il faut chercher la connaissance. Donc, le moment, l'époque où nous vivons, c'est l'époque où toute musulmane doit chercher à apprendre sa religion. Parce que le manque de connaissance, c'est ça qui fait que l'on soit complexé. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à exprimer sa foi. Parce que lorsqu'on va faire telle chose, on sera attaqué. Quand on sera attaqué, on sera incapable de dire quelque chose. On sera incapable de se défendre. Alors quand c'est comme ça, ouais, on se tait, on s'éclipse. Ouais? Donc ce qui va nous permettre effectivement de nous affirmer, c'est d'apprendre notre religion. D'où l'impératif de chercher la connaissance. Et Rasulullah sallam dit, Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Chercher la connaissance est une obligation sur tout musulman. Sur tout musulman et toute musulmane. On est obligé d'apprendre notre religion. Parce que lorsqu'on a la connaissance, on n'a pas peur. On n'a pas peur de faire tel acte, tel autre acte, parce que quand on te demandera, tu diras, voilà, Dieu a dit, le prophète a dit. Mais ce que vous dites de l'islam, ce n'est pas ça. Voilà, tu donnes le vrai sens. Oui. C'est la connaissance. Alors, quand je regarde ici, l'auditoire, je vois, c'est un auditoire intellectuel, éminemment intellectuel. Nous avons appris des sciences modernes et tout. Mais comme il nous manque le côté religieux, la science religieuse, notre religion, alors, malgré la connaissance que nous avons, la connaissance mondaine, s'il faut appeler ça comme ça, oui, on est diminué. Oui. Oui. Donc, on est diminué. On n'arrive pas à s'exprimer. Pour la plupart. Je sais qu'il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont les deux, hein, qui sont ici aussi, dans la salle. Ils sont là. Mais la tendance, c'est quoi? C'est que beaucoup sont intellectuels des sciences modernes, mais ignorant des sciences religieuses, ignorant du Coran, de la Sunna. Et c'est ça le malheur. Donc nous devons revenir à la religion. Revenir à la religion, donc, c'est apprendre le Coran et apprendre la Sunna. La Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comprendre le Coran, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le Coran et la Sunna, mais il faut-il encore comprendre ce Coran et la Sunna par rapport à la compréhension de ceux qui ont été les témoins oculaires de la révélation. Parce que s'il y a des dérapages aujourd'hui ici et là, et mais c'est parce que nous ne comprenons pas cet islam-là, le Coran, la Sunna, par rapport à nos ancêtres. Quand je parle ancêtres ici, ne regardez pas nos ancêtres de... Hein, ici, l'ancêtre dans la foi, à savoir les compagnons du prophète Mohammed sallam et ceux qui les ont suivis. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, là, si on jette les pierres à la charia d'Allah, alors que c'est la meilleure législation en soi. C'est la meilleure législation. On ne pourra pas arriver à la justice sociale si on n'applique pas la charia. La justice sociale. On ne pourra pas atteindre si on n'applique pas la charia. Mais le problème, c'est quoi? Comment appliquer? C'est ça. Comment pratiquer ça? Par exemple, ce qui se passe tout près de vous, par exemple. C'est bien beau. C'est bien beau de se réclamer cela. Mais le problème, c'est comment? La méthode, vous comprenez ça? La méthode. Alors, quand on manque tout ça, là, il n'y a pas la méthodologie et tout, on ne suit pas les pas des prédécesseurs, on gaspille tout. On gaspille tout. Oui? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que ce dernier change son fort intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nous voulons appliquer la charia, vous comprenez? Si nous voulons appliquer la charia, nous devons d'abord, ouais, éduquer la population, enseigner la population. Nous devons commencer par la base, donner l'instruction, la connaissance qu'il faut, la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Enseigner. Quand le peuple, la population aura compris, c'est la population elle-même. Et vous comprenez ça? Parce que c'est la population qui... Bon, quand on parle de la démocratie et tout ça là, hein? Bon, c'est un sujet, hein? Nous mettons ça entre guillemets là. Hein? Mais c'est le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est son pouvoir. Mais est-ce que le peuple là, c'est lui, vous voyez combien la composante, quand on voit le peuple, il est nombreux. Est-ce que c'est tout ce peuple-là qui va aller commander? Non, le peuple va choisir. Vous comprenez? Ceux qui vont exercer ce pouvoir-là pour lui. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si nous avons éduqué la population,
c'est la population. Comme la population ira voter et tout ça là. Hein? Je dis, entre guillemets, hein? Hein? La démocratie et l'islam là sont encore comment là, bon ça. Hein? Là je suis en train d'aller par rapport à la logique telle que les choses se passent. Pour vous montrer le processus, vous comprenez ça? Et c'est cette population qui va voter pour la charia. La charia ne s'impose pas. Et vous comprenez ça? On ne doit pas imposer. Mais vous allez imposer, les gens n'ont même pas compris la valeur de la chose. Ils n'ont pas compris. Mais il faut d'abord enseigner. Voilà pourquoi un éminent savant disait, il disait, « Akimu daulat al-islam fi kulubikum tuqamu lakum ala ardikum. » Et vous comprenez ça? « Akimu daulat al-islam fi kulubikum. » Établissez l'état islamique dans vos cœurs et cet état-là vous sera établi sur votre terre. Donc, il faut commencer à changer les gens d'abord dans leur fort intérieur. Que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience. En ce moment-là, non. Bref, la situation que nous vivons aujourd'hui appelle à ce que les musulmans apprennent sérieusement leur religion. Apprennent sérieusement leur religion et mettent en pratique les valeurs, les nobles valeurs de l'islam. Ce n'est qu'en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous donner la victoire. Pourra nous donner la victoire sur l'ennemi. Vous savez, Omar ibn Khattab, pour terminer et donner la parole au docteur, parce qu'il faut qu'il ajoute quelque chose, tellement que les gens ont envie de l'écouter, j'aimerais m'arrêter ici pour qu'il essaie de dire quelque chose. Vous savez, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, il dit, Inna kunna azala qawmi. Nous étions un peuple avili, un peuple sans valeur, un peuple faible, un peuple sans force. Écoutez bien, Omar ibn Khattab, il décrit la Oumma, comment ils étaient avant, au temps du paganisme, avant donc l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils étaient? Il dit, nous étions un peuple sans valeur, un peuple dénigré, avili, sans force, sans puissance. Fa'azana Allahu bil-Islam. Et Allah nous a donné la force, la puissance, la valeur à travers l'islam. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la force. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la puissance. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la valeur. Nous sommes devenus aujourd'hui un peuple valeureux. Un peuple honorable. Honoré et honorable. Donc si nous cherchons la puissance, nous cherchons l'honneur, la valeur, par une voie autre que Allah subhanahu wa ta'ala, nous a permis de recouvrer notre dignité, en tout cas Allah subhanahu wa ta'ala nous avilira, va nous avilir, va nous humilier. On va continuer dans l'humiliation. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Si aujourd'hui les musulmans sont humiliés à travers le monde, partout, vous écoutez, vous suivez les informations, les médias, mais c'est parce que nous cherchons la solution ailleurs que dans l'islam. La solution, c'est dans l'islam, dans la pratique des enseignements de l'islam. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va relever nos têtes. C'est là où il va nous relever. Mais si on continue à faire de l'hypocrisie, ici et là, ouais, on fait semblant, c'est comme si, ouais, on continuera à patauger l'ennemi. Vous voyez ce que Allah a fait maintenant? Il a enlevé la peur des musulmans dans les cœurs des ennemis et il a jeté la peur de l'ennemi dans le cœur des musulmans. Ce qui n'a pas existé au temps de la révélation et au temps des compagnons du prophète Mohammed. Tout ça là pourquoi? Parce que nous nous sommes écartés, éloignés justement des enseignements.
Donc bref, je vais m'arrêter là. Vous devez être fiers de l'islam, hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, je vais regarder dans le Coran, il y a un verset intéressant qui attaque l'islam à tout bout de champ. À travers notre comportement, ils vont comprendre que non, ce qui se passe, c'est pas ça. Voilà le vrai message de l'islam. Et l'islam nous recommande même, devant notre ennemi, celui qui est ton ennemi, l'islam nous recommande d'être juste envers lui, de pratiquer l'équité, être équitable vis-à-vis de ton ennemi, alors qu'il est ton ennemi. Tu devais être animé d'esprit de vengeance, de ceci, non. L'islam te dit, Al-Qur'an nous dit, wa la yajrimannakum shana'anu qawmin an la alla ta'dilu, idilu ou aqrab li taqwa. Ouais. Que la haine que vous avez pour un peuple, que cette haine ne vous pousse pas, hein, ne vous empêche pas d'être équitable envers eux. Ouais. Pratiquez l'équité. Soyez équitable envers eux. Cela est proche de la crainte. Regardez l'islam. Donc, comment nous allons assumer notre identité? C'est à travers. Donc, dans ce monde-là, déjà, hein, islamophobe contre l'islam, la haine contre les musulmans, les attaques contre les musulmans, nous devons montrer le bel exemple. Voyez, pour décourager l'ennemi. Il pense que non, ce n'est pas ça. L'islam que vous pensez violent, l'islam n'est pas violent. L'islam ne prêche pas la violence. L'islam ne prêche pas la vengeance. Non. Le bon comportement. Voyez. Voilà pourquoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a le bon comportement. Celui qui a le bon caractère. Mais comment doit-on avoir le bon comportement? Comment doit-on avoir un bon caractère? Alors tout ceci doit passer par l'apprentissage de la religion. Chercher l'accord, la connaissance. Il faut chercher la connaissance. Donc le moment, l'époque où nous vivons, c'est l'époque où toute musulmane doit chercher à apprendre sa religion. Parce que le manque de connaissance, c'est ça qui fait que l'on soit complexé. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à exprimer sa foi. Parce que lorsqu'on va faire telle chose, on sera attaqué. Quand on sera attaqué, on sera incapable de dire quelque chose. On sera incapable de se défendre. Alors quand c'est comme ça, ouais, on se tait, hein, on s'éclipse. Ouais. Donc ce qui va nous permettre effectivement de nous affirmer, c'est d'apprendre notre religion. D'où l'impératif de chercher la connaissance. Et Rasulullah sallam dit, Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Chercher la connaissance est une obligation sur tout musulman. Sur tout musulman et toute musulmane. On est obligé d'apprendre notre religion. Parce que lorsqu'on a la connaissance, on n'a pas peur. On n'a pas peur de faire tel acte, tel autre acte. Parce que quand on te demandera, tu diras, voilà, Dieu a dit, le prophète a dit. Mais ce que vous dites de l'islam, ce n'est pas ça. Voilà, tu donnes le vrai sens. Oui. C'est la connaissance. Alors, quand je regarde ici, l'auditoire, je vois c'est un auditoire intellectuel, éminemment intellectuel. Nous avons appris des sciences modernes et tout. Mais comme il nous manque le côté religieux, la science religieuse, notre religion, alors, malgré la connaissance que nous avons, la connaissance mondaine, s'il faut appeler ça comme ça, vous voyez, on est diminué.
Ça n'est pas
Oui. Oui. Donc, on est diminué. On n'arrive pas à s'exprimer. Pour la plupart. Je sais qu'il y a des gens, alhamdoulilah, ils ont les deux, hein, qui sont ici aussi, dans la salle. Ils sont là. Mais la tendance, c'est quoi? C'est que beaucoup sont intellectuels des sciences modernes, mais ignorants des sciences religieuses, ignorants du Coran et de la Sunna. Et c'est ça le malheur. C'est ça le malheur. Donc nous devons revenir à la religion. Revenir à la religion, donc, c'est apprendre le Coran et apprendre la Sunna. La Sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comprendre le Coran, il ne s'agit pas seulement d'apprendre le Coran et la Sunna, mais il faut-il encore comprendre ce Coran et la Sunna par rapport à la compréhension de ceux qui ont été les témoins oculaires de la révélation. Parce que s'il y a des dérapages aujourd'hui ici et là, eh bien c'est parce que nous ne comprenons pas cet islam-là, le Coran, la Sunna, par rapport à nos ancêtres. Quand je parle ancêtres ici, ne regardez pas nos ancêtres de... Hein, ici, l'ancêtre dans la foi, à savoir les compagnons du prophète Mohammed et ceux qui les ont suivis. C'est très important. Parce qu'aujourd'hui, là, si on jette les pierres à la charia d'Allah, alors que c'est la meilleure législation en soi. C'est la meilleure législation. On ne pourra pas arriver à la justice sociale si on n'applique pas la charia. La justice sociale. On ne pourra pas atteindre si on n'applique pas la charia. Mais le problème, c'est quoi? Comment appliquer? C'est ça. Comment pratiquer ça? Par exemple, ce qui se passe tout près de vous, par exemple. C'est bien beau. C'est bien beau de se réclamer cela. Mais le problème, c'est comment? La méthode, vous comprenez ça? La méthode. Alors, quand on manque tout ça, là, il n'y a pas la méthodologie et tout, on ne suit pas les pas des prédécesseurs, on gaspille tout. On gaspille tout. Ouais. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah ne change pas la situation d'un peuple jusqu'à ce que ce dernier change son fort intérieur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si nous voulons appliquer la charia, vous comprenez? Si nous voulons appliquer la charia, nous devons d'abord, voyez, éduquer la population, enseigner la population. Nous devons commencer par la base, donner l'instruction, la connaissance qu'il faut, la connaissance du Coran et de la Sunna du prophète Mohammed, enseigner. Quand le peuple, la population aura compris, c'est la population elle-même. Et vous comprenez ça? Parce que c'est la population qui... Bon, quand on parle de la démocratie et tout ça là, hein? Bon, c'est un sujet, hein? Nous mettons ça entre guillemets là. Hein? Mais c'est le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est son pouvoir. Mais est-ce que le peuple là, c'est lui, vous voyez combien la composante, quand on voit... Le peuple, il est nombreux. Est-ce que c'est tout ce peuple-là qui va aller commander? Non, le peuple va choisir. Vous comprenez? Ceux qui vont exercer ce pouvoir-là pour lui. Et vous comprenez ça? Donc, si nous avons éduqué la population, c'est la population. Quand la population ira voter et tout ça, là, hein? Je dis, entre guillemets, hein? La démocratie et l'islam, là, c'est encore comment, là? Bon, ça... Hein? Là, je suis en train d'aller par rapport à la logique telle que les choses se passent pour vous montrer le processus. Vous comprenez ça? Et c'est cette population qui va voter pour la charia. La charia ne s'impose pas. Et vous comprenez ça? On ne doit pas imposer. Mais vous allez imposer. Les gens n'ont même pas compris la valeur de la chose. Ils n'ont pas compris. Mais il faut d'abord enseigner. Voilà pourquoi un éminent savant disait, Akimu daulat al-islam fi kulubikum tukamu lakum ala ardikum. Et vous comprenez ça? Aqim dawlat al-islam fi kulubikum. Établissez l'état islamique dans vos cœurs. Et cet état-là vous sera établi sur votre terre. Il faut commencer à changer les gens d'abord dans leur fort intérieur. Que les gens prennent conscience. Que les gens prennent conscience. En ce moment-là, non. Bref, la situation que nous vivons aujourd'hui appelle à ce que les musulmans apprennent sérieusement leur religion. Apprennent sérieusement leur religion et mettent en pratique les valeurs, les nobles valeurs de l'islam. Ce n'est qu'en cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala pourra nous donner la victoire. Pourra nous donner la victoire sur l'ennemi. Vous savez, Omar ibn Khattab, pour terminer et donner la parole au docteur, parce qu'il faut qu'il ajoute quelque chose, tellement que les gens ont envie de l'écouter. J'aimerais m'arrêter ici pour qu'il essaie de dire quelque chose. Vous savez, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le deuxième calife orthodoxe de l'islam, il dit, Inna kunna azala qawmi. Nous étions un peuple avili, un peuple sans valeur, un peuple faible, un peuple sans force. Écoutez bien, Omar ibn Khattab, il décrit la Oumma, comment ils étaient avant, au temps du paganisme, avant donc l'avènement du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'ils étaient? Il dit, nous étions un peuple sans valeur, un peuple dénigré, avili, sans force, sans puissance. Fa'azana Allahu bil-Islam. Et Allah nous a donné la force, la puissance, la valeur à travers l'islam. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la force. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la puissance. C'est avec l'islam qu'Allah nous a donné la valeur. Nous sommes devenus aujourd'hui un peuple valeureux. Un peuple honorable, honoré et honorable. Donc si nous cherchons la puissance, nous cherchons l'honneur, la valeur, par une voie autre que Allah subhanahu wa ta'ala, nous a permis de recouvrer notre dignité. En tout cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous avilira, va nous avilir, va nous humilier. On va continuer dans l'humiliation. C'est ce qui se passe aujourd'hui là. Si aujourd'hui les musulmans sont humiliés à travers le monde, partout, vous écoutez, vous suivez les informations, les médias, mais c'est parce que nous cherchons la solution ailleurs que dans l'islam. La solution, c'est dans l'islam, dans la pratique des enseignements de l'islam. C'est là où Allah subhanahu wa ta'ala va relever nos têtes. C'est là où il va nous relever. Mais si on continue à faire de l'hypocrisie, ici et là, ouais, on fait semblant, c'est comme si, ouais, on continuera à patauger l'ennemi. Vous voyez ce que Allah a fait maintenant? Il a enlevé la peur des musulmans dans les cœurs des ennemis et il a jeté la peur de l'ennemi dans le cœur des musulmans. Ce qui n'a pas existé au temps de la révélation et au temps des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça là pourquoi? Parce que nous nous sommes écartés, éloignés justement des enseignements. Donc bref, je vais m'arrêter là. Vous devez être fiers de l'islam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, je vais regarder dans le Coran, il y a un verset intéressant, je crois que c'est dans Sourate Hijr, je regarde, c'est le 15e chapitre, si je ne m'abuse, voyez, pour se rendre compte que vraiment nous devons nous battre, on doit être fiers d'être musulmans. Voilà. Donc chapitre 15 du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alif Lam Ra, Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin,
Rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin. Voyez ce verset, le verset intéressant. Voyez, aujourd'hui nous avons honte, on se gêne de se dire musulman devant les gens, de pratiquer son islam en public. On se cache. Regardez, Allah dit, Alif Lam Ra, voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Le jour du jugement dernier, écoutez, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Allahu Akbar. Ouais. Regardez, écoutez bien. Allah dit, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans. Voilà comment nous sabotons la religion. Les mécréants là, ceux qui sont là-bas, les Jean-Pierre, les Jean-Paul, je ne sais pas comment, tout ce monde là, les Grégoire, les Benoît, et les autres. Parce que Al-Kufru Milatu Wahida. Al-Kufru Milatu Wahida. La mécréance est une même religion. C'est la même religion. La mécréance est une, religion unique pour tous les composantes, toutes les composantes. Qu'ils soient les gens du livre, qu'ils soient, en tout cas, Al-Kufru Milatun Wahida. La mécréance est une même et seule religion. Donc voilà, ces mécréants vont regretter ce jour-là. Le jour où ils vont se présenter devant Allah pour rendre compte de leur séjour ici sur terre. Ils vont mordre les doigts. Ils vont regretter. Oh, vraiment. Si on savait, on allait croire en Muhammad. On allait le suivre. On allait. C'est trop tard. Trop tard, Yohan. Parce que lorsqu'on meurt, on quitte le monde des œuvres, le monde des actions, le monde du travail, pour le monde, voyez, de la récompense, pour le monde de la rétribution. Parce qu'on ne récolte que ce qu'on a semé. On ne récolte que ce que l'on a semé. Qu'est-ce que tu as semé? Avant de rencontrer ton Seigneur, qu'est-ce que tu as semé? Voilà, ces gens-là, ils ont semé la mécréance, ils vont regretter là-bas. S'ils étaient musulmans. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes musulmans. Regardez, alhamdoulilah, c'est une grande grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas un bienfait plus grand que celui-là. Regardez comment nous blaguons avec cet islam-là. Nous avons maintenant honte de pratiquer. La sœur musulmane a maintenant honte de mettre le voile. De mettre le voile islamique. Elle a honte. Elle a honte. Subhanallah. L'homme musulman aussi, ça fait partie de la sunna. Gardez-moi la barbe. Il a honte. Parce que tout de suite, quand on voit un barbu, voilà un terroriste. Le terroriste est résumé maintenant par le porteur de barbe. Voilà, le kafir va souhaiter être à ta place. La place que tu es en train de saboter ici, là. Le kafir va regretter demain. Il va souhaiter être musulman comme toi. Mais pourquoi tu ne veux pas être fier de ta religion, pratiquer ta religion tête haute, et à haute voix? Pourquoi tu ne peux pas? Donc, bref, chers frères islam, remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait de nous vraiment les gens de la communauté de Muhammad. Alors, je me retourne vers le docteur Abdul Majid pour donner quelques mots autour donc de ce sujet et avant donc de repasser la parole au modérateur, Inch'Allah. Donc, docteur, fallait tafaddal, Inch'Allah. Barakallahu fiik.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسلا مباشرين ومنذرين لئلا يكون على الناس حجة الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى أخوتنا فيه الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est la meilleure formule de salutation que le monde n'a jamais connue, à l'exception de ceux qui ont suivi les messagers de Dieu. Et cette formule de salutation qui dérange aujourd'hui même certains musulmans non avertis, pour ne pas dire ignorants, ne pourra en aucune manière être comparée avec les formules de salutation comme le bonjour et le bonsoir. Parce que vous savez, pour celui qui connaît la signification de bonjour, une personne qui voit par exemple ses plantations prendre feu, ou alors sa maison prendre feu pendant la journée, et vous vous rapprochez de cette personne pour lui dire bonjour, si vraiment elle connaît la signification de bonjour, ce serait une insulte que vous seriez en train de lui adresser. Parce que simplement bonjour veut dire que la journée soit bonne pour vous. Et comment voulez-vous que la journée soit bonne pour lui lorsque son système moral est infecté par ce qui lui est arrivé? Et nous savons, nous les Africains, nous aimons bien aller en Europe, en Occident, aux États-Unis d'Amérique, ainsi de suite. S'il arrivait que l'un de nous rate son vol qui devait l'amener aux États-Unis d'Amérique la nuit, et que vous lui disiez bonsoir, si vraiment il connaît le sens de cette formule de salutation, en tout cas il n'hésitera pas de vous dactylographier le visage, si je puis m'exprimer ainsi. Simplement parce que bonsoir veut dire que la soirée soit bonne pour vous. Donc ce sont des formules qui sont limitées dans l'espace et dans le temps. Mais par contre, la formule Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps. Non seulement elle n'est pas limitée dans l'espace et dans le temps, mais le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que parmi les noms de Dieu, il y a As-Salam. Et Dieu a fait descendre cet attribut de Salam sur la terre pour que vous vous saluiez par cet attribut-là. Et cette formule de salutation, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, n'a d'autre signification que celle d'un doigt ou d'une invocation qui est adressée à Dieu, plutôt qu'on demande à Dieu, n'est-ce pas, pour qu'il verse sa paix sur la personne qu'on a saluée ou la personne à qui l'on a, l'auditoire à qui l'on a salué par cette formule de salutation. Mais malheureusement, aujourd'hui, il y a des musulmans qui, lorsqu'on les salue par cette formule, assalamu alaykum, bonjour. D'autres même, ils ne répondent pas, il faut se faire. Pourtant, vous êtes en train d'adresser à Dieu une prière en sa faveur. Mais étant donné qu'il est ignorant, et c'est cela notre problème dans la communauté, il ignore l'essence de cette formule de salutation. Mes chers frères et sœurs, j'ai commencé mon intervention par louer Allah, par remercier Allah, le maître des circonstances, qui a voulu, par sa grâce, que nous nous retrouvions ce soir dans ces beaux cadres. Et il sait lui-même pourquoi il favorise cela. J'implore sa grâce sur notre vénéré prophète Mohammed, sur les gens de sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu, dans le but de tirer les êtres humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Et je demande également à Dieu de verser sa grâce sur tout musulman et toute musulmane qui suivra la voie du champion de Tawhid, Muhammad ibn Abdullah, jusqu'à son dernier battement. Alors, j'aimerais ici, mes chers frères et sœurs en islam, par rapport au thème du jour, vous rappeler une chose. Vous savez, dans le Saint-Coran, au chapitre 23, Dieu nous dit ceci. Pensez-vous que nous vous avions prié en vain et que vous ne retourneriez pas vers nous? Je voudrais que nous méditions tous sur ces passages du Saint-Coran. Dieu nous pose cette question. Pensez-vous que nous vous avions prié en vain, c'est-à-dire sans but, et que vous ne retourneriez jamais à nous? Avez-vous compris cela? Dans un autre verset du Saint-Coran, Dieu nous pose une autre question en disant Am khuliqu min ghayri shay am humul khaliqun. Ont-ils été créés ou se sont-ils auto-créés? C'est une question que Dieu nous pose. Et face à cette question, il nous met, c'est-à-dire par rapport à notre existence, il nous met face à trois possibilités. Ont-ils été créés à partir du néant ou se sont-ils auto-créés? C'est la question que Dieu nous pose. Et même aux athées qui font semblant de ne pas les reconnaître, mais qui les connaissent. N'est-ce pas? La raison résonante veut que même les athées reconnaissent l'existence de Dieu. Alors, face à cette question, nous nous retrouvons, par rapport à cette question, allais-je dire, nous nous retrouvons face à trois possibilités par rapport à notre existence. La première possibilité, c'est laquelle? Ont-ils été créés à partir du néant ou se sont-ils auto-créés? La première possibilité, c'est que nous existons de nous-mêmes. La seconde possibilité, nous nous sommes créés. La troisième possibilité, nous avions été créés par un créateur qui nous a tirés du néant à l'existence sans modèle préexistant. Laquelle de ces trois possibilités est-elle vraie? Et c'est la première qui veut que nous existions de nous-mêmes. Je vous pose cette question. C'est la première? Ce n'est pas la première. Donc la raison raisonnante refuse et dit non. Pourquoi? Parce que cette possibilité est absurde. Elle revient à nier la loi des causes à effet qui est la base de toutes les lois scientifiques. C'est-à-dire, s'il faudrait que nous croyions que nous existons de nous-mêmes, cela reviendrait par exemple à croire qu'il y a eu vol sans qu'il y ait de voleurs. Est-ce que vous comprenez? Donc cette possibilité, cette première possibilité est fausse sur toute la ligne. Maintenant la seconde possibilité. Nous nous sommes auto-créés, nous nous sommes créés nous-mêmes. Est-ce que cette possibilité est-elle vraie? Hein? Et vous savez pourquoi il n'est pas vrai? Parce qu'elle contient en elle une confusion. Nous ne pouvons pas nous créer sans exister. C'est-à-dire, pour qu'on se crée, il faut avoir existé. Et si l'on existe déjà, c'est qu'on ne peut pas se créer. C'est qu'on a été créé par quelqu'un d'autre. Un élément causatif extérieur qui nous a tiré du néant à l'existence. Donc il ne reste que la troisième possibilité, et qui est vraie. C'est que nous avons un créateur qui nous a créés, qui nous a tirés du néant à l'existence. Et cela pour un but. Le verset que nous avons lu précédemment nous montre clairement, c'est-à-dire, la responsabilité de l'homme sur la terre. L'esprit téléologique du verset. Le verset nous montre clairement que nous n'avons pas été créés en vain ou sans but. Nous avons été créés avec un but, ou pour un but. Et ce but, c'est quoi? Dieu lui-même nous montre dans le Coran qu'il nous a créés dans le noble but de lui vouer premièrement un culte pur et sincère, sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit. Parce que la première question en matière de foi, c'est la connaissance de Dieu et l'adoration de Dieu. C'est pourquoi quand vous voulez même parler avec les gens du livre, les chrétiens et les autres, la première question que vous devez traiter avec eux, c'est la connaissance de Dieu. Parce que sans la connaissance de Dieu, tout ce que ces gens-là sont en train de faire sur la terre ici, toutes les bonnes œuvres qu'ils font sur la terre, ils n'auront leur récompense qu'ici. Au dernier jour, pas de récompense. Dieu dit dans le Coran, s'adressant au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sans la connaissance de Dieu, tout ce que nous faisons sur la terre est vain. Ça, c'est la première raison de notre existence sur la terre. Adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, dans sa souveraineté, dans ses attributs, dans sa divinité, dans son adoration. La seconde raison, nous sommes appelés à mener une vie vertueuse fondée sur la volonté de Dieu, exprimée dans son livre, ou bien dans ses livres sacrés, dont la Torah, les psaumes, l'évangile de Jésus, et le dernier qui est le Coran, donc le dernier testament dédié, destiné à toute l'humanité. Et cette volonté a été pratiquement expliquée dans la sunna de ses messagers, dont le dernier est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sur le plan vertical comme horizontal. Et enfin, nous sommes appelés à faire triompher la loi de notre Seigneur sur toute la surface de la terre, au détriment des systèmes politiques inventés par l'esprit de l'homme païen qui ne profite qu'à une minorité militairement forte et qui s'accapare de 90% des richesses de la terre. Pourtant, ces richesses sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Mais les gens continuent à mourir de faim. Alors que Dieu a placé ses richesses, elles sont proportionnelles à tous les peuples de la terre. Mais comme l'a dit le cheikh, on n'impose pas la charia. On n'impose pas la charia. On éduque d'abord la masse. Alors bref, mes chers frères, pour que l'homme arrive à connaître le but de son existence, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu nous a envoyé des prophètes. Et parlant du nombre des prophètes qui ont été envoyés par Dieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Dieu a envoyé 124 000 prophètes, dont 313 messagers. Prophètes, Nabi, messagers, Rasoul. En hébreu, Navi, Shalucha, Rasoul. Il y a des différences entre prophètes et messagers, parce que les prophètes n'apportent pas la loi, mais un messager en même temps un prophète. Donc il peut aussi apporter une loi qui abolit la loi qui l'a précédée. Ou il peut apporter des amendements ou d'autres choses qui n'ont pas été enseignées dans la loi qui a été révélée avant lui. Alors, mais la différence, c'est comme je l'ai toujours dit, pour la comprendre, c'est comme lorsqu'on dit l'aigle est un oiseau, mais tout oiseau n'est pas l'aigle. C'est qu'il faut comprendre. Tout messager de Dieu est prophète, mais tout prophète n'est pas messager de Dieu. Et tous ces prophètes de Dieu, comme l'a dit le cheikh, n'ont prêché qu'une seule et unique religion, à savoir l'islam. Il faut qu'on se le dise. Parce que j'ai remarqué cela, même dans les milieux intellectuels, parmi les musulmans. On tombe un pied dans les pièges de l'Occident. On dit, oh bon, voilà, il y a plusieurs religions. Plusieurs religions sont au monde. Non! Plusieurs religions révélées. Plusieurs religions célestes. Non, il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Jamais. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Nahnu ma'ashar al-anbiya abna'ulad dinuna wahid. » Nous, l'ensemble des messagers de Dieu, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mêmes différentes. Des mères différentes, mais notre religion est une. Ça, c'est la parole du prophète. Tu vas contredire le prophète? Et cette parole, elle est logique. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait plusieurs religions? Il n'y a jamais eu plusieurs religions provenant de Dieu. Il n'y a qu'une seule religion que Dieu a révélée à l'humanité, mais qui a connu plusieurs dispensations prophétiques dans l'espace et dans le temps. Il n'y a jamais eu plusieurs religions. Dieu est unique. La vérité salvatrice, elle est unique. Le but de la création de l'être humain est unique. Le but de l'envoi des messagers de Dieu est unique. La religion qu'ont apporté les messagers de Dieu, elle est unique. Il n'y a pas plusieurs religions. Vous verrez les autres religions là. Ce sont des religions qui portent les noms des hommes. Et ces hommes-là ne connaissent même pas ces noms-là. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir aujourd'hui le judaïsme. Mais est-ce que Moïse connaît le mot judaïsme? Non. Vous allez voir le christianisme. Est-ce que Jésus connaît le mot christianisme? Non. C'est pourquoi notre père Abraham qui nous a appelés musulmans, Dieu parla d'Abraham, dit « Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniya walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin. » Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était qui? Soumis, musulman. Wa ma kana min al-mushrikin. Et il n'a jamais été du nombre des mushrikoun, associateurs. Je commence par la dernière partie. Vous savez que le nom d'Abraham est une expression de l'unicité de Dieu? Parce que Abraham, en langue araméenne, Ibra, veut dire refusé. Hima, c'était le nom du grand Dieu idole qui était adoré par le peuple d'Abraham. Quand Abraham a refusé d'adorer ce Dieu, Dieu a complété son nom, Ibrahima. C'est-à-dire refuser Hima, en d'autres termes, celui qui a refusé d'adorer les faux dieux idoles qu'on appelait Hima. Mais chez les chrétiens dans la Bible, on va vous dire, Abraham veut dire père d'une multitude de nations. Non, ça c'est, le nom d'Abraham a eu ce sens hein, par rapport à la promesse que Dieu lui a faite. Ce n'est pas le sens de son nom. C'est comme dans la Bible, il y a un mot qu'on appelle hein, qu'on dit Babel dans la Bible. Babel. Et que si tu demandais à un chrétien que signifie Babel, il te dira non, Babel veut dire confusion. Pourquoi? Parce que c'est à Babel que Dieu a confondu les langages humains. Tous ont parlé une seule langue. Mais selon la Bible, ce jour-là, Dieu a confondu les langages humains. C'est pourquoi on appelait Babel confusion. Alors qu'en réalité, le mot Babel ne veut pas dire confusion. Parce que c'est un mot constitué. Bab porte, elle, Dieu. Bab veut dire porte de Dieu. C'est là où les êtres humains à l'époque ont voulu construire une tour pour, et ça c'est ce que dit la Bible, hein? On dit qu'ils ont voulu monter jusqu'au ciel pour aller attraper Dieu. Vous voyez? Ils se sont construits une tour pour monter au ciel, pour aller attraper Dieu. Et la Bible nous dit, quand Dieu a vu cela, il a dit à ses anges, ah, ces gens peuvent monter ici, il faut qu'on descende là-bas. Ben, ça se trouve dans la Bible, ça. Il faut qu'on descende sur terre pour les confondre, pour qu'ils ne montent pas ici. Alors que la science aujourd'hui ne montre que tu ne peux même pas dépasser ta tête pour monter au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Alors bref, donc le Coran nous dit, Nabi Ibrahim ne faisait pas partie des mouchirikoun. Et le Coran nous dit, il n'était pas juif. Pourquoi Abraham n'était-il pas juif? Vous savez, moi, mon rôle, c'est quoi? Quand je suis devant mes soeurs, mes frères et sœurs, mon rôle, c'est faire de sorte que vous ayez la joie et l'assurance d'appartenir dans la religion de Dieu. Parce que cela, c'est là plutôt va créer quoi? Une ceinture de sécurité autour de vous. par rapport à ceux qui s'acharnent à nous égarer, à nous détourner du droit chemin. Nous les verrons, Inch'Allah. Comment Dieu nous les a montrés dans les cinq Corans. Mais ici, je vais rapidement. Donc, les Corans nous disent qu'Abraham n'était pas juif. Pourquoi Abraham n'était pas juif? Parce que le mot juif dérive du nom de l'un des arrière-petits-fils d'Abraham. Parce que, c'est-à-dire Abraham a eu Isaac. Isaac a enfanté Jacob. Jacob, Nabi Yaakoub, a eu 12 fils. L'un d'eux s'appelait Judas. Et c'est du nom de Judas, Yahoud, qui est sorti le nom judaïsme. Mais Abraham, lui, a existé avant Judas. Si Abraham existait avant Judas, avant Jacob, avant Isaac, quel était le nom de la religion d'Abraham? Est-ce que vous comprenez ça? Et le mot judaïsme a pris son sens d'une religion spirituelle. C'est seulement en 933, ou bien après, lorsque les enfants d'Israël ont été déportés à Babylone par le roi Nabucodonosor. C'est à ce moment-là que le prophète Ézéchiel a créé ce qu'on a appelé le judaïsme, une manière de vivre la spiritualité qui était pratiquée par les juifs qui vivaient, qui habitaient les Roms du Sud, qu'on appelait Juda, et qui avait pour capitale Jérusalem. Tandis que les autres habitaient le Nord, Israël, qui avait pour capitale Samarie. Vous voyez? Donc quand le Coran nous dit Abraham n'était pas juif, le Coran ne le dit pas pour rien, il donne des preuves. Et quand le Coran nous dit Abraham n'était pas chrétien, comment voulez-vous qu'Abraham soit chrétien lorsque Jésus lui-même n'était pas chrétien? Alors on va vous inviter à dire devenez des chrétiens. Mais oui, on peut devenir des chrétiens. Est-ce que Jésus était chrétien? C'est cela la question à poser. Dieu dit Abraham n'était pas chrétien. Si nous disons le mot christianisme a vu jour des années après que Jésus soit passé. Et ce mot est un nom, est un mot grec, Christianos, et Jésus ne parlait pas la langue grecque. Est-ce que vous comprenez? Mais Jésus lui-même, est-ce que sa religion s'appelait christianisme? Non. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants des mêmes pères, mais des mères différentes. Notre religion est une, c'est laquelle? L'islam. Soumission à la volonté de qui? De Dieu. Et lorsque vous lisez la Bible, vous entendrez Jésus vous dire, ne pensez pas que je sois venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, il était venu ordonner ce que Dieu a ordonné, interdire ce que Dieu a interdit, aimer ce que Dieu aime, détester ce que Dieu déteste, manifester réellement la volonté de Dieu sur tous les plans de la vie. Jésus-Christ était musulman. Mais les gens sont un peu allergiques. Quand ils vous entendent dire que Jésus était musulman, ils pensent que vous voulez dire de lui qu'il était adepte de qui? De Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non. Comme le cheikh l'a dit, Muhammad, lui, il n'a pas inventé l'islam. Il a trouvé l'islam. Alors, tous les prophètes étaient des musulmans. On prêchait la religion musulmane parce que leur message était un et unique. Lequel? Dieu dit dans le Coran, 21e chapitre, verset 25, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Nous n'avons envoyé aucun prophète avant toi sans lui avoir dit, reconnaissez, attestez et prêchez aux autres qu'il n'y a de Dieu que moi et c'est moi que vous devez adorer. Cela était le message de tous les prophètes de Dieu. Aucun prophète de Dieu n'a prêché la doctrine de la Sainte Trinité, qu'elle soit catholico-protestante ou sabellianiste. Aucun prophète de Dieu n'a prêché que Dieu avait un enfant. Ça n'existe pas. Aucun prophète de Dieu n'a prêché que non, Dieu était venu sur la terre pour mourir, se faire tuer par ses propres créatures, on l'arrête, on le tue, on l'attache quelque part, et puis il est en sous-vêtement. Est-ce que vous comprenez? Aucun prophète ne l'a fait. Tous les prophètes ont prêché la doctrine de l'unicité de Dieu, dont les musulmans ont aujourd'hui la charge de prêcher à toute l'humanité pour qu'il n'y ait point de raison échappatoire au dernier jour devant le grand tribunal et le grand et incorruptible tribunal de Dieu. Nous avons cette charge. Et c'est pourquoi personne sur la terre ne peut prétendre connaître la doctrine de l'unicité de Dieu plus que les musulmans. Vous savez pourquoi? La raison, elle est simple. Toute personne qui croit à la doctrine de l'unicité de Dieu doit accepter que la loi de Dieu puisse régir quoi? Régir leur société. Vous ne pouvez pas dire je crois à l'unicité de Dieu et vous refusez la loi de Dieu au détriment des systèmes inventés par qui? Par l'homme. Non. Si réellement vous croyez en Dieu, vous devez accepter que la loi de Dieu puisse régir votre société. Mais encore une fois de plus, nous l'avons dit, on n'impose pas la charia. On éduque la masse. C'est comme ce qui se passe parce qu'il y a des gens qui ont des raisons politiques derrière. D'autres, ce sont des raisons de business. Ils viennent, ils utilisent la charia. Ils disent, oh non, ils viennent au nom de la religion. Alors qu'ils ne sont pas pour la religion. Et vous les reconnaîtrez facilement parce que, comme l'a dit le chef, ils ne vont pas respecter les préalables qui a été établi par les prophètes lui-même avant que la charia ne soit appliquée. Ils ne respectent pas. À ce moment-là, on sera non. Ça, ce sont des gens à double visage. Au monde, il n'y a que deux religions, mes chers frères et sœurs. Le Coran nous dit Imma Shakiraou wa Imma Kafoura. Imma Shakiraou wa Imma Kafoura. Il n'y a pas une troisième voie. Donc, si nous devons parler en termes de religion, il n'y a que deux religions. Une religion qui nous provient de Dieu et qui nous invite à nous soumettre à sa volonté, n'est-ce pas? Et une autre qui nous provient du diable et qui a plusieurs facettes et qui nous détourne de quoi? De vouloir divin. Parce que la religion du diable a plusieurs facettes. Mais comme le chef l'a dit, Kofru, Milatoun, Wahid. Mais une seule religion, mais ça change seulement de... Ça change de facettes seulement, Mais c'est la même religion. Alors, nous les musulmans, par la grâce de Dieu, nous devons être fiers. Pourquoi? Parce que nous sommes les héritiers de la religion qui a été prêchée par l'ensemble des messagers de Dieu. Cela étant, certaines personnes sont jalouses de nous et s'acharnent à nous détourner de quoi? De cette religion-là. Et c'est pour deux raisons principales. C'est soit par haine ou par jalousie. Dieu nous dit dans le Coran, cher, je peux avoir le chapitre 2, verset 109 à 121 du Saint-Coran. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez jusqu'à ce que Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Et accomplissez la prière et acquittez la zakat et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous les retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dit, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Verset 112, non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte et ils ne seront point attristés. Le verset 113 plutôt, et les juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent les juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent les livres, de même ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur, eh bien Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Je parachute directement sur le verset 21, 20 qui nous intéresse, 120 plutôt. Le verset dit ceci, ni les juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu sais leur passion, après ce que tu as reçu des sciences, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur. Je vous rappelle un hadith du prophète Mohammed. La paix de Dieu soit sur lui, qui nous a dit, il arrivera un moment où vous les musulmans, vous suivrez les gens du livre pas à pas dans tout ce qu'ils feront. Les sahabes ont demandé, ce sont les juifs et les chrétiens? Et le prophète a dit, Faman, qui donc? Vous les suivrez comme ça se passe aujourd'hui. Le prophète dit, vous les suivrez pas à pas comme ça se passe aujourd'hui. Nous sommes en train de les suivre. Même quand ils célèbrent leur fête, nous sommes là. Leur manière de s'habiller, même si c'est indécente, nous les imitons. Ils fêtent, ils organisent des anniversaires, nous sommes là. Quelqu'un qui est en train d'organiser son anniversaire alors qu'il a perdu 18 ans ou 20 ans. Nous sommes là, parce qu'on veut les suivre. Et le prophète dit, même s'ils rentraient dans un trou, vous allez les suivre dans ce trou-là. Mais si Dieu nous dit dans le Coran, nombre des gens du livre, les chrétiens et les juifs, chercheront à vous égarer du droit chemin après que vous ayez cru. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Et plus bas, Dieu dit, et ils ne vous laisseront jamais jusqu'à ce que vous suiviez leur voie. Est-ce que vous comprenez? Mais est-ce que Dieu nous demande de leur faire la guerre? Non. Dans ces versets, Dieu nous dit, pardonne, mais acquitte-toi de la salade et de la zakat. Je pense que, vous savez, le Coran c'est miraculeux. Hein? Quelqu'un peut dire, mais bon, il nous attaque, ceci, cela, ou bien il se décide de nous, il s'acharne à nous égarer du droit chemin, et Dieu nous donne deux solutions. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne deux solutions seulement. Ici, par rapport à ces versets, il dit quoi? Acquittez-vous de la prière et donnez la zakat. Vous savez pourquoi? Deux solutions. Acquittez-vous de la prière et donnez la zakat. Aujourd'hui, nous ne pouvons jamais, et alors jamais, assumer et préserver notre identité islamique sans ces deux recommandations divines. Faisons très attention et suivez-moi attentivement. Parce que les gens voient seulement la prière, la zakat. Vous savez pourquoi Dieu a parlé de cela? Si vous comprenez cela, non, et que nous le mettions en pratique, c'est fini. Ils vont pleurer. Dieu dit dans ce passage du Saint-Coran, il nous montre des secrets pour relever la tête, pour assumer et protéger notre identité musulmane. Dieu nous dit, accomplissez la prière, donnez la zakat. Pourquoi accomplir la prière? Parce que l'accomplissement de la prière, c'est le premier signe visible devant nous permettre, n'est-ce pas, de confirmer ou de préserver notre identité musulmane. La prière. Et vous devez savoir que l'accomplissement de la prière inclut la connaissance de Dieu, qui est, c'est-à-dire la base sur laquelle est assise notre identité musulmane. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui prier Dieu sans l'avoir connu. Il faut d'abord chercher à connaître Dieu pour ensuite bien l'adorer. Donc vous voyez ça, c'est-à-dire même avant de prier, c'est-à-dire il faut qu'on suive un cursus là. Une formation pour connaître le tawhid, connaître la doctrine de l'unicité de Dieu sur tous les plans. Et cette prière confirmera notre présence. Et c'est la prière qui fait de nous que nous soyons musulmans ou kafirs. Maintenant, le deuxième point, c'est la zakat. Vous savez, le Coran nous montre clairement qu'il y a huit motifs, n'est-ce pas, pour lesquels la zakat doit être donnée. Mais les oulémas nous montrent aussi, toujours dans ces mêmes motifs, que cette institution divine, c'est-à-dire qui est la zakat, comme nous le savons, est destiné à faire quoi? À récolter des fonds publics, et ces fonds doivent être destinés, entièrement destinés, n'est-ce pas, à un organisme public qui s'en chargera, qui gérera ces fonds pour la réalisation des projets islamiques. La réalisation des projets islamiques comme quoi? Dans les siècles, notre siècle actuel, nous devons, nous les musulmans, de construire des infrastructures qui nous permettront, n'est-ce pas, d'offrir des services d'éducation de nos enfants, de nos jeunes, et même les adultes, et même les femmes, avec l'argent de la zakat. Nous pouvons nous construire, nous pouvons avoir des infrastructures qui vont nous permettre d'organiser des séminaires, d'organiser des stages de formation pour les jeunes filles, pour les jeunes garçons, pour les femmes, pour les adultes, ainsi de suite. Avec, toujours avec l'argent de la zakat. Avec l'argent de la zakat, nous pouvons implanter partout dans la ville des bibliothèques, des vidéothèques, des audiothèques dignes de ces siècles. Parce que fini le temps là, vous avez une petite bibliothèque comme ça de routine et vous voulez que les koufars qui ont des bibliothèques de luxe puissent se laisser séduire par vos bibliothèques là. Non, nous devons avoir des bibliothèques dignes de ces noms, des audiothèques, des vidéothèques, construire des écoles. C'est-à-dire, toutes ces choses-là vont nous permettre de faire quoi? D'assumer et de préserver notre identité musulmane. C'est pourquoi ici, vous avez des associations islamiques qui œuvrent. Parce que vous devez savoir que dans la zakat, la septième catégorie ou rubrique de la zakat est énoncée comment? C'est d'une manière générale, on énonce cela comme « fisabilillah ». « Fisabilillah ». Et « fisabilillah » veut dire quoi? « Fisabilillah », c'est-à-dire concerne tous ceux qui travaillent pour la défense de la foi et de la communauté. Est-ce que vous comprenez? Ça inclut tous ceux qui travaillent pour la défense de la foi et de la communauté. Donc aujourd'hui, si les musulmans s'organisaient et ceux qui ont des moyens avaient cette prise de conscience, n'est-ce pas, de payer la zakat comme il se doit, pour que cette zakat soit gérée par un organisme islamique, n'est-ce pas, qui saura lui-même comment les orienter, les partager à travers entre les associations, pour que ces dernières, donc ces associations, puissent œuvrer, n'est-ce pas, dans leurs activités, dans le but de préserver notre foi et de faire quoi? De défendre notre communauté. Nous allons nous en sortir. L'islam n'est pas du tout contre l'expression de la joie. Et comment voulez-vous que l'islam soit contre l'expression de la joie lorsque les prophètes, quand le prophète Mohammed sallam dit, il est parlant de l'islam, il l'appelle Dinul Fitra, c'est-à-dire la religion qui est conforme à la nature primordiale de l'être humain. Cela étant, l'islam ne peut pas être contre la manifestation de la joie. Cependant, ce que l'islam essaie de nous faire comprendre, c'est que nous, les croyants, nous n'avons pas du tout droit de célébrer le fait qui véhicule des idées qui sont contraires aux principes de la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. Donc si c'est une fête qui véhicule une idée qui est contraire au tawhid, on ne peut pas la célébrer. Et cela est le cas de la fête de Noël et aussi de la fête de Saint-Sylvestre. Pour les chrétiens, la fête de Noël veut dire les jours où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine à la personne de Jésus-Christ, il est né d'une femme à la personne de Marie. Il est venu sur la terre pour nous sauver par sa mort sur la croix. En d'autres termes, le musulman qui célèbre la fête de Noël veut en réalité nous dire qu'il est d'accord avec les chrétiens que Dieu est né d'une femme à la personne de Marie et que ce que le Coran dit, Dieu n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté, l'amialid ou l'amioulad, est faux. Parce que c'est cela l'essence de la fête de Noël chez les chrétiens. C'est le jour où Dieu est venu sur la terre sous forme humaine, à la personne de Jésus. Il est né d'une femme, à la personne de Marie. Est-ce que vous comprenez? Or, quand moi je fais le débat avec les chrétiens, quand ils disent de Jésus qu'il est Dieu, je leur pose une simple question. Vous dites Jésus est Dieu, ça va. A-t-il été Dieu dans le ventre de sa mère, oui ou non? Si oui, donne la preuve. Sinon, quand devint-il Dieu? Alors, parce que si vous dites, oui, il était Dieu dans le ventre de sa mère, je vais tout de suite vous donner un verset dans la Bible où Jésus dit, dans le ventre de ma mère, toi tu as été mon Dieu. Donc ça veut dire qu'il n'était pas Dieu dans le ventre de sa mère. Et si tu me disais, non, il est devenu Dieu, je dis, non, Dieu ne devient pas Dieu. Dieu est Dieu avant comme après la création. Il ne devient pas Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? Donc c'est simple. Donc aller célébrer cela, c'est du chiffre. Et si la mort vous trouvait dans cette fête-là, mais c'est fini. C'est fini. Deux, la fête de la Saint-Sylvestre du 31 décembre, qu'on l'appelle communément Saint-Sylvestre. Pourquoi? Vous savez, Sylvestre, c'est le nom d'un homme. Et Sylvestre est le 33e pape de l'Église catholique romaine. Il est né un certain 31 décembre. Et pourquoi lui a-t-on dédié la journée du 31 décembre? Parce que c'est le pape Sylvestre Ier qui a fait, qui a pesé de tout son poids pour imposer la divinité de Jésus-Christ au concile de Nicée en l'an 325 de notre ère. En signe de reconnaissance des efforts qu'il a fait, soutenu par le diable pour triompher sur les croyants et non sur Dieu, je m'excuse, l'Église lui a dédié la journée du 31 décembre. Parce que c'est ce jour-là que Jésus est devenu Dieu. Donc un musulman qui célèbre la Saint-Sylvestre, il veut en réalité nous dire: je suis d'accord avec Sylvestre Ier que Jésus est Dieu, et que votre Coran, la cage, dit Jésus n'est pas Dieu, c'est faux. Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhu. Le prophète dit: celui qui imite un peuple fait partie d'eux. Vous voyez? Donc les deux fêtes véhiculent des idées qui contredisent la religion qui a été prêchée par tous les prophètes. En islam, il n'y a que trois fêtes: Eid al-Fitr, après le ramadan, la fête de la Tabaski, fête des moutons, et après le jour du vendredi. Un point, un trait, il n'y a pas une autre fête. Toutes les autres fêtes sont des innovations. Il n'y a que trois fêtes à l'islam. Donc un musulman averti ne doit pas célébrer ces fêtes-là, parce qu'elles véhiculent des idées qui sont contraires à la religion qui a été prêchée par Dieu. Il y a d'autres fêtes, telles que la fête de l'indépendance, ainsi de suite, qui n'ont rien à voir avec la religion. Mais une communauté qui prive les filles du droit d'aller à l'école, c'est une communauté qui n'ira pas loin. Parce que l'instruction est un droit naturel pour chacun de nous. Et l'islam n'a jamais été contre cela. Et quand vous parlez des filles qui doivent traiter les filles, les hommes qui doivent traiter les hommes, oui, c'est bien, mais je dis aussi que l'islam n'interdit pas à un homme de traiter une femme. Mais seulement dans les cas de force majeure, l'islam autorise. J'étais en train de dire, comme je l'ai dit la fois passée, que nous musulmans, nous devons comprendre la nécessité qu'il y a aujourd'hui pour nous d'envoyer nos filles, n'est-ce pas, apprendre par exemple la médecine. Parce qu'il y a des métiers qui sont compatibles aux filles ou aux femmes en islam. Entre autres la médecine. Et je disais l'autre fois que, voyez par exemple un imam, un grand imam, un grand ulama, alim, qui refuse, c'est-à-dire, donc les musulmans n'ont pas le droit, par exemple, de voir sa femme ou ses filles, n'est-ce pas? Quand ils vont lui rendre visite, ils ne voient même pas sa femme, ils ne voient pas ses filles, c'est bien. C'est bien. Mais quand la femme tombe malade, ou la femme veut accoucher, c'est même alim, musulman, amène sa femme consulter un gynécologue kafir qui va exiger que cette femme se déshabille devant lui. Qu'avez-vous fait alors? Est-ce qu'avez-vous compris la religion? Rien. Vous n'allez pas dire, bon, voilà, bon, ça c'est le cas des forces majeures. Oui, le cas des forces majeures ne doit pas être éternel. Le cas des forces majeures n'est pas éternel. C'est pourquoi aujourd'hui, dans les pays musulmans développés, vous avez des femmes musulmanes qui traitent les femmes. Même en Europe, il y a certaines femmes aujourd'hui qui refusent de se faire consulter par des médecins hommes. Pourtant, elles ne sont même pas des musulmanes. Vous savez que le corps de la femme est sacré. Elle ne peut être contemplée que par son mari. Ça, d'abord, est un principe. Mais maintenant, à combien plus forte raison le corps d'un imam, notre imam. Maintenant, on amène sa femme. Et c'est le cas, et surtout si le cas apprenait que c'était la femme d'un imam. Et si c'était un médecin gynécologue, vous savez qu'il connaissait toutes les zones alimentales là. Donc il peut faire, même faire ça expressement, quoi. Toucher par-ci, par-là, parce que c'est la femme de l'imam ou la femme d'un musulman. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi nous ne nous organiserons pas, nous les musulmans, pour promouvoir la formation, n'est-ce pas, de nos filles, pour combler ce vide-là dans la vérité, pour que nous ayons des femmes ou des filles musulmanes qui traiteront nos sœurs et qui traiteront même d'autres femmes non musulmanes dans nos sociétés respectives. Je pense que ça, moi je ne sais pas, s'il y a un connaisseur qui s'élèvera pour nous dire non, ce que vous êtes en train de dire là est faux. Il faut qu'on laisse toujours nos femmes aller se faire consulter par des médecins hommes et surtout koufars. Non. La communauté musulmane, c'est comme un oiseau. Elle doit voler de ses deux ailes. Et ces deux ailes, ce ne sont pas seulement les ailes des sciences islamiques et des sciences modernes, mais aussi les ailes des hommes qui détiennent les sciences islamiques et modernes et des femmes qui détiennent les sciences islamiques et modernes. Avec ce genre de personnes dans notre communauté, nous allons faire avancer notre communauté sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est vraiment une nécessité et je pense que vous avez compris les dangers. Vous avez compris les dangers. Et il y a eu des choses que je ne mérite pas. Ça s'est passé chez nous, à l'est de la République démocratique du Congo. C'était vraiment horrible. Vraiment horrible. Mais par après, les musulmans ont compris cela et ils se sont organisés par la grâce de Dieu. Donc, cela est recommandé. Vous ne pouvez pas aussi aujourd'hui avoir, par exemple, une femme à la maison qui ne sait même pas lire une ordonnance ou bien une notice de médicaments. Elle veut donner à son enfant un médicament, mais c'est pas. Elle doit appeler les voisins. Pourquoi? Nous, on ne refuse pas. Il est arrivé un moment où nos grands-parents à nous, dans certains de nos pays, ont refusé d'envoyer nos papas à l'école. C'était avec raison, parce qu'à l'époque, il y a le colonisateur qui était soutenu par son église ou sa religion. Et ils avaient une stratégie qui consistait à détourner nos parents, n'est-ce pas, de leur religion. Alors ils ont trouvé que non, la chose la plus précieuse pour nous, c'est notre foi en Dieu. Donc si on nous détournait de cette foi, nous allons perdre notre identité. C'est pourquoi ils ont préféré ne pas les envoyer à l'école des Blancs pour aller finir par adorer un Dieu qui se révélerait en trois personnes. Okay. Et ils ont préféré les envoyer où? À la madrasa. Donc c'est eux d'ailleurs qui nous ont permis de conserver aujourd'hui notre foi. Mais leur époque maintenant est révolue. Aujourd'hui leur époque est révolue. Nous vivons maintenant l'époque de musulmans qui doivent posséder toutes les sciences. En dehors des sciences coraniques, nous devons tout apprendre. C'est cette époque-ci. Parce que l'arme que Dieu nous demande de posséder dans le Coran, quand Dieu nous dit posséder toutes sortes d'armements pour faire peur à vos ennemis, des ennemis que vous connaissez et ceux dont vous ne connaissez pas mais que Dieu connaît. Ce n'est pas seulement les armes physiques. Et d'abord, il faut savoir que jamais Dieu ne nous donnera la victoire à travers les armes physiques. Les armes des militaires. Comment vous appelez? Des armes militaires ou d'assaut. Jamais Dieu ne donnera à la communauté de Mohammed la victoire sur ses ennemis à travers ces armes-là. Non! Notre victoire viendra à travers quoi? À travers notre retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam. C'est seulement lorsqu'on fera un retour vers les vraies valeurs spirituelles et morales de l'islam, à ce moment-là, Dieu nous donnera quoi? La victoire. C'est-à-dire, nous pouvons prendre même une pierre. Nous jetons la pierre, elle se transforme en une bombe. Est-ce que vous comprenez? Mais les armes, non! C'est pourquoi tout ce que vous voyez là partout dans le monde, quand on parle, c'est souvent les gens ne font plus le djihad. C'est la vengeance. C'est la vengeance aveugle parce que le djihad a ses préalables. Le djihad a ses conditions qui doivent être respectées. Donc les gens font la vengeance et cela a une répercussion négative sur cette belle religion qu'est l'islam. L'islam n'interdit pas le mariage avec les chrétiens, chrétiennes. Mais quelle chrétienne? Et quand faut-il épouser une chrétienne? C'est là le problème. L'islam n'interdit pas le mariage avec les femmes des gens du livre, juives et chrétiennes. Mais ici nous avons des chrétiennes. L'islam n'interdit pas cela. Mais quelle chrétienne? Et quand devons-nous épouser une chrétienne? C'est là le problème. D'abord, quand vous lisez le Coran, quand le Coran nous parle des femmes chrétiennes que nous devons épouser, le Coran dit Al-Muhsanatu min alladhina utul kitab. C'est-à-dire les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné les livres. Pas une chrétienne qui porte le cola, Kenzo, met des cheveux, c'est pas comment. Tu dis non, c'est celle-là qui est mienne. Ça là, je ne peux pas la rater. Non, le Coran te dit clairement, les femmes vertueuses parmi ceux à qui nous avons donné les livres. Ce n'est pas n'importe quel chrétien. Vertueuse. Et si c'est une femme vertueuse, une chrétienne, c'est-à-dire, si vous la voyez avec une musulmane qui est vertueuse, il n'y a pas de différence. La différence n'existe entre elle que lorsque celle-ci va à la mosquée et l'autre à l'église. Mais sur le plan comportemental, moral, éthique, elles sont extraordinaires. Mais non, vous voyez, vous dites, non, le Coran nous est permis. Moi, je prends qui je veux. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand faut-il épouser une chrétienne? Parce que là, je reviens à un propos de Omar ibn Khattab, radiallahu anhu. Lorsque Huzayfa ibn Yaman a épousé une chrétienne, Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, lui a envoyé une lettre, lui demanda de divorcer avec cette chrétienne juste après la lecture de sa lettre. Et vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Huzayfa? Il lui dit, veux-tu l'amener la fitna, introduire la fitna dans la communauté? Vous voulez introduire la fitna dans la communauté? Pourquoi Omar ibn Khattab a-t-il dit cela? Parce que les choses, il faut les comprendre dans leur contexte. Il y a un contexte où on peut épouser une chrétienne sans problème, mais il y a d'autres contextes, ces mariages, il faut bien les regarder avant de l'épouser. Donc ici, à la lumière de cette réaction de Omar ibn Khattab, les savants ont déduit quoi? Ils ont dit, parce que Omar a refusé cela, parce que dans la communauté musulmane, il y avait des filles mariables. Pourquoi laisser les filles mariables qui sont dans la communauté et aller chercher ailleurs? Maintenant, si vous allez ailleurs, qui va épouser ces filles mariables qui sont dans la communauté? Est-ce que vous comprenez ça? Pour préserver, favoriser les filles mariables qui sont dans la communauté. Ça, c'est un autre critère. Il y a un troisième critère. Quand il n'y a pas ce qu'on peut épouser une femme chrétienne, donc quand il n'y a pas de fille musulmane mariable, et que cette chrétienne est vertueuse. Mais maintenant, parmi les chrétiennes, il faut chercher quelle chrétienne. Parce qu'il y a des catégories. Est-ce que vous allez prendre une chrétienne qui croit que Jésus est Dieu, au détriment de celles qui ne croient pas à la divinité de Jésus? Vous allez prendre une chrétienne qui croit à la Sainte Trinité, au détriment de celles qui ne croient pas à la Sainte Trinité? Est-ce que vous pouvez épouser une chrétienne, même s'il ne croit pas que Jésus est Dieu, même si elle ne croit pas à la Sainte Trinité, mais qui a la haine du prophète Mohammed? Vous pouvez l'épouser? Non. Ça dit, on regarde encore, s'il n'y a plus de filles mariables parmi les musulmans, ainsi de suite, et qu'il y a des filles chrétiennes vertueuses, n'est-ce pas, mais qui n'accepteraient pas d'embrasser notre foi, maintenant on regarde parmi ces chrétiennes. Qui sont celles-là dont la foi est proche de celle des musulmans? Donc si c'est une chrétienne qui ne professe pas, par exemple, la divinité de Jésus, la Sainte Trinité, toutes ces doctrines d'origine sataniques, n'est-ce pas, c'est cette chrétienne-là qu'on peut favoriser par rapport aux autres. Mais encore, il faut toujours faire très attention, les savants nous disent. Faudrait encore savoir où est-ce qu'on va vivre avec cette chrétienne. Si par exemple vous allez loin avec elle, vos proches ne sont pas là-bas, Vous êtes allé vivre avec elle, peut-être dans un autre pays ou dans un autre village. N'est-ce pas? Elle vous donne des enfants. Mais il arrive que l'homme meure avant la femme. N'est-ce pas? Et que quand l'homme meurt, c'est fini. Les enfants restent avec qui? Avec la maman. Et pensez-vous que cette maman va les amener à la mosquée? Hein? Non. Elle va les amener où? À l'église. Or, en amenant les enfants à l'église, ce serait faire quoi? Parce que si elle croit à la divinité de Jésus, elle croit à la Sainte Trinité, on amène les enfants à l'église, elles vont épouser la foi de leur mère, et qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire, vous, musulmans, vous avez fourni à Satan, Iblis, des soldats pour combattre l'unicité de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela? C'est-à-dire, vos propres enfants, votre propre postérité est passée de l'autre côté et a embrassé la foi chrétienne, et maintenant elle se lève contre quoi? La doctrine de l'unicité de Dieu qui a été apportée par Mohammed. C'est pourquoi certains savants déconseillent karma aux musulmans de faire quoi? D'épouser les femmes chrétiennes. Mais il peut y arriver dans un contexte donné où il n'y a pas de femmes musulmanes, ainsi de suite. On peut épouser une chrétienne, quelle que soit sa doctrine, on peut l'épouser. N'est-ce pas? Mais on peut aussi épouser une chrétienne quand il y a des musulmans à côté. Quand? C'est lorsqu'on l'a invitée, on lui a parlé de l'islam, elle accepte de se convertir en islam, à ce moment-là, elle n'est plus chrétienne, elle devient musulmane, elle doit être placée au même pied d'égalité que ses sœurs qu'elle trouvera dans la communauté. Là, on l'épouse, même s'il y a des femmes, des filles musulmanes mariables dans la communauté. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.